En entendant la finale de la première lecture, la question que tout le monde se pose est la suivante. Ces deux personnages ne seraient-ils pas des anges novices cisterciens? En effet, les novices cisterciens sont vêtus de blanc de la tête aux pieds. Mais quelques dominicains trouveraient sans doute à y redire. Et au fond, l'auteur inspiré n'a pas voulu donner de précision afin sans doute d'éviter toute jalousie. Alors laissons cela. Le récit de la résurrection tel que nous l'a transmis saint Luc s'ouvre avec deux anges. Deux hommes en vêtements éblouissants, dit le texte, et se clôt donc, au moment de l'ascension, avec deux anges pareillement. Deux hommes en vêtements blancs, dit Luc, dans les Actes des Apôtres. Avez-vous remarqué que durant cette période, il n'est jamais fait mention d'aucun démon ? Les seules créatures angéliques qui prennent part à la vie du ressuscité sont de bons anges. Ce simple fait nous parle déjà de la vie éternelle, cette vie transfigurée pour laquelle nous avons été créés de toute éternité. Une vie peuplée d'anges et de saints, une vie qui nous fera comprendre et aimer tout ce qui nous aura peut-être troublé ou même choqué durant notre toute petite vie terrestre de quelques années. Jésus, le premier, a inauguré ce temps et il a tenu à l'inaugurer sur terre, au milieu de témoins choisis d'avance, justement pour témoigner de la joie qui nous attend. Inaugurer sur terre la résurrection n'est pas le terme de notre vie. Elle nous prépare à une vie particulière, une vie éternelle en présence de Dieu, notre Père. Ainsi qu'avec la cour céleste, composée de myriades angéliques et de toutes les créatures humaines qui auront choisi de répondre à l'appel Salvateur du Christ. Vous avez peut-être remarqué dans l'Évangile la mention de Béthanie. L'évangéliste nous renvoie à la résurrection de Lazare qui a eu lieu à Béthanie et aussi à l'onction qui fut faite sur les pieds de Jésus par un parfum très pur, toujours à Béthanie. L'évangéliste nous invite ainsi à vivre déjà une vie de ressuscité similaire à celle de Lazare, c'est-à-dire une vie dans laquelle la résurrection se lève progressivement et envahit tout notre être en attendant la résurrection définitive. Il nous invite aussi à oindre du parfum de cette vie nouvelle les pieds de ceux dont nous croiserons le chemin dès ici-bas. En vérité, c'est à cela que nous ferons connaître au monde Jésus. C'est à cela que le monde saura que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Malheureusement, beaucoup de nos contemporains considèrent l'ascension d'une manière très étrangère à tout cela. Même parmi les chrétiens, peu y voient l'aboutissement de notre vie terrestre, enfin transfigurée et accomplie dans l'assemblée des saints et des anges en la présence du Dieu trinitaire. Pour une grande majorité, l'ascension est encore aujourd'hui essentiellement l'occasion d'un pont qui permet 4 jours de vadrouille. Quelle tristesse! Quelle tristesse! elles n'ont rien compris. Peut-être en faisons-nous partie du reste. Il y a pourtant quelque chose qui devrait au moins nous conduire à réfléchir un peu plus loin. Alors que Jésus leur est enlevé, alors qu'ils perdent du regard l'être qu'ils ont sans doute le plus aimé depuis maintenant 3 années. Et cela peut peut-être aussi rejoindre ceux d'entre vous qui ont perdu un être cher, très cher. Eh bien, à ce moment-là, Luc nous dit que les apôtres repartent tout joyeux. C'est tout de même curieux qu'une séparation puisse être une source de joie. Ces hommes qui semblaient perdus à l'idée de voir Jésus disparaître sont maintenant retournés. Ils transsudent la jubilation, comme dirait Léon Blois. Alors, qu'ont donc compris ces hommes ? Et que nous ne comprenons pas beaucoup. Ils ont tout simplement compris que le départ visible de Jésus ne changeait rien à la vie nouvelle dans laquelle ils vivaient désormais. Ils ont compris que cette ascension de Jésus préfigurait la nôtre, non point comme un espoir. L'espoir, c'est quelque chose d'horizontal et d'humain. Mais comme une espérance qui n'est pas une hypothèse dont on souhaiterait peut-être une fin heureuse, just in case. L'espérance est l'attente joyeuse de l'accomplissement d'une certitude. Cette certitude est la connaissance d'être attendu auprès de Dieu. Aussi, les apôtres ne sont-ils pas en train de se demander ce qu'il va falloir faire ou bien endurer pour obtenir cette espérance ? Car l'espérance est un don. Comme les deux autres vertus théologales, ces deux grandes sœurs, selon l'expression de Charles Péguy, qui sont la foi et la charité. Dès lors, ces vertus, puisqu'elles sont théologales, ne sont pas à notre portée, mais en revanche, nous sommes à leur portée par la volonté de Dieu. Et l'espérance nous donne la certitude d'être un jour auprès de Dieu, à condition que nous entrions dans l'élan de la résurrection. C'est pour cette raison que les apôtres repartent tout joyeux et qu'ils bénissent Dieu sans cesse. Mais pas seulement. Jésus leur a annoncé la venue de l'Esprit-Saint. Ils savent encore à quoi s'attendre, même s'ils ignorent comment cela va se réaliser et jusqu'à quel point cela va les transformer. Ils savent qu'ils vont être immergés dans l'Esprit et le feu afin de pouvoir partager leur joie de croire en Dieu. La joie de ces hommes à l'instant de l'ascension de Jésus préfigure déjà celle qui sera la leur en allant annoncer ce même Jésus-Christ Sauveur afin que le plus grand nombre embrasse la foi. Forts de la foi que le Père leur a confiée en Jésus, certains de l'espérance qui les habite désormais d'être bientôt réunis dans la joie du ciel, ces hommes sont portés par la charité de Dieu vers tous ceux qu'ils croiseront afin de leur annoncer cette vie nouvelle à côté de laquelle il ne faut plus passer. C'est fini. La vie ancienne, c'est derrière. Pour accomplir tout cela, les apôtres et tous les croyants après et avec eux, c'est-à-dire nous, doivent encore attendre une force, ou bien la renouveler. Cette force qui habitait Jésus durant tout son ministère, depuis le jour où les cieux se sont ouverts au-dessus de lui, et jamais refermée, jusqu'à ce jour de l'Ascension où ces mêmes cieux demeurés ouverts reçoivent celui que le Père avait reconnu comme son Fils bien-aimé. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Et cette force, c'est évidemment l'Esprit Saint qui reposait sur Jésus comme Fils unique de Dieu. Cet Esprit, désormais, va venir reposer sur les apôtres comme Fils adoptif de Dieu et pour nous comme fils et filles adoptifs de Dieu, si nous acceptons de vivre de la résurrection de Jésus, avec tous les détachements auxquels nous serons invités et conduits. À la petite Thérèse, une de ses novices disait un jour: « Sœur Thérèse, quand je pense à tout ce que je dois acquérir pour devenir sainte, » et la petite Thérèse, avec la finesse qu'on lui connaît, répondit: « Dites plutôt perdre qu'acquérir. Nous avons tellement à perdre pour gagner tellement. » Marie elle-même, la mère de Jésus, attend cette venue de l'Esprit. Non point parce que l'Esprit n'aurait pas reposé sur elle, ô combien, mais parce qu'elle en a besoin pour sa nouvelle mission comme mère des croyants, c'est-à-dire la nôtre. N'oublions pas en effet que Jésus, selon ses propres paroles, n'a pas pu dire aux apôtres tout ce qu'il voulait leur dire, mais qu'il ne pouvait pas encore porter. C'est dans l'Évangile, hein ? C'est pas moi qui ai brodé. Préparons-nous donc, nous aussi, à recevoir davantage encore cet élan de l'Esprit qui pousse à témoigner là où nous sommes, comme nous sommes, parce que la présence du Père en notre cœur est la plus forte. Amen.